France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, comment raconter des histoires aux enfants? La question est aussi vieille que le monde. Toutes les générations se la posent car tous les enfants du monde réclament des histoires. Si vous n'êtes pas né conteur, eh bien il y a les livres, bien sûr, ce n'est pas ce qui manque. Il y a aussi désormais des podcasts. France Inter est à la pointe dans ce domaine, vous le savez. Votre radio préférée édite les Odyssées pour les 7-12 ans. 5 nouveaux podcasts viennent d'ailleurs de sortir. Il y a aussi pour les tout-petits une histoire Éoli qui s'adresse aux tout-petits, avec là aussi de nouveaux épisodes attendus la semaine prochaine. Restent les histoires maison, celles que vous racontez vous-même à vos enfants et pour lesquelles vous auriez bien besoin de quelques conseils. Alors ce soir, nos invités vont vous en donner. Ils vont aussi répondre aux questions des plus petits qui sont peut-être aussi au bout du fil. Avec nous ce soir, Laure Grand-Besançon. Bonsoir Laure.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Productrice du podcast Les Odyssées. C'est vous qui écrivez, qui racontez les fameuses Odyssées qui connaissent tant de succès. Vous nous direz quel est votre secret. Léonard Billot, bonsoir.
Bonsoir Claire.
Producteur du podcast Jeunesse, une histoire Éoli pour les 5-7 ans, c'est bien ça?
Exactement.
Vous nous direz là aussi comment vous procédez, qui vous allez chercher pour raconter ces histoires aux tout-petits. Marien Tillet, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes conteur pour tous les âges.
C'est ça.
C'est bien ça. Ouais. Vous faites des spectacles et donc du direct, ce qui est assez différent. Vous nous donnerez vos techniques, vous aussi. Surtout, n'hésitez pas à appeler le standard de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, nous avons un appel de Laszlo. Bonsoir Laszlo.
Bonjour, je m'appelle Laszlo, j'ai 7 ans et demi.
Oui, Laszlo, merci mille fois d'appeler. Et Laszlo, tu appelles pour les Odyssées?
Oui, j'adore les Odyssées.
Salut Laszlo.
C'est Laure Grand-Besançon qui te salue, Laszlo.
Ça va?
Je l'ai rencontrée au Salon du Livre et elle prend vraiment une voix grave que quand je l'ai rencontrée, elle avait une voix très aiguë. Mais j'aime bien les Odyssées parce que je découvre plein de choses.
Tu les écoutes quand, Laszlo, les Odyssées? Avant de dormir?
Non, par exemple, quand j'ai le temps, avant d'aller à l'école, voilà.
Ah bon, même le matin? Même le matin?
Oui, par exemple.
Et est-ce que parfois, Laszlo, tu les réécoutes, les histoires que tu as déjà écoutées?
Non, dès qu'il y en a qui sortent, j'essaie de les lire, de les écouter.
Et est-ce qu'il y a des histoires qui te font peur parfois?
Non.
Non.
Est-ce que tu as écouté l'Odyssée qu'on a faite sur l'enquête sur le fantôme du château de Vos?
Je crois, oui.
Et ça t'a pas fait peur, cette histoire de fantôme?
Non.
Il n'a pas peur, Laszlo. Laszlo, est-ce que tu as une question à poser à Laure Grand-Besançon?
Oui. Comment vous faites pour trouver tout le temps des titres, les histoires que vous allez raconter?
Eh ben, à chaque fois, je cherche, je vais dans la bibliothèque, je lis, je vois des films aussi. Et figure-toi qu'il y a aussi des enfants qui écrivent sur la boîte mail de l'émission et qui suggèrent des idées. Et par exemple, je sais pas si t'as écouté l'Odyssée sur les évadés de la prison d'Alcatraz.
Oui, je l'ai lu et même je savais comment ils avaient fait.
Ah, génial. Eh ben, tu vois, ça, c'est une Odyssée que des auditeurs m'ont suggéré. Ils ont écrit en disant, ah, génial, est-ce que vous pourriez faire une Odyssée sur cette évasion? Et j'avais jamais fait une évasion de prison et je me suis dit, mais oui, bien sûr, il faut absolument raconter ça. Et du coup, j'ai choisi d'en faire un podcast. Donc, c'est un peu des gens qui m'en parlent. J'ai des gens aussi qui travaillent avec moi, qui parfois me font des propositions. Et puis après, moi, qui cherche un peu partout. Et il y a la vie, quoi, qui ramène des histoires.
Alors, Laszlo, tu vois, si jamais tu as une suggestion à faire à Laure Grand-Besançon, c'est le moment où jamais tu as envie de lui demander une histoire particulière?
Ah oui, n'hésite pas.
Le prochain Odyssée, comment il va s'appeler?
Alors les prochaines Odyssées qui vont sortir là du coup en février, Ça va être 4 odyssées. Une odyssée sur une grande aventurière complètement folle qui s'appelle Nelly Bly, qui est la première femme qui a fait le tour du monde. D'un seul coup, j'ai eu un peu de stress. Mon Dieu, je ne me souviens pas de son nom. Qui a fait le tour du monde en 72 jours. Il y a une odyssée qui va sortir sur... écoute, là, tu me prends
le cours.
tu m'as un petit peu ému. Alors du coup, là, je perds un peu mes moyens.
Bon, je vous propose un truc. On va écouter un extrait d'une odyssée avant de poursuivre notre discussion. On écoute et puis on en parle après.
Pour les Sioux, 4 valeurs sont fondamentales. La sagesse, la générosité, la bravoure, la force d'âme. Toutes ces qualités, Sitting Bull les possède. Sans lever un sourcil, il endure la chaleur du soleil ou le froid de la neige. Il sait guérir et parler après le bip sonore. Non, pardon. Avec les esprits. Il aurait même, paraît-il, le sens de l'humour. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi de te raconter son aventure.
Le chef indien Sitting Bull, leur grand Besançon. Laszlo, tu la connais celle-là?
Non. Et Laure, en fait, est-ce que c'est vrai que Jimmy, dans les Odyssées, tu l'as vraiment rencontré?
Alors Jimmy, effectivement, c'est mon indique, tu sais, c'est celui qui me donne toujours mes bons tuyaux pour me faire mes bonnes enquêtes. Et du coup, effectivement, de temps en temps, je vais dans ce lieu que j'appelle Apinoy, mais qui est un peu un lieu secret, et je le rencontre et il me donne des petites infos. Mais je peux pas en dire beaucoup plus, parce que ben si jamais je dis qui il est, ben ça pourrait le mettre en danger, et puis tout le monde pourrait lui demander des enquêtes. Et donc voilà, je le protège un peu.
Voilà,
il est secret.
Faut garder une petite part de mystère.
Une petite part de mystère.
Merci Laszlo d'avoir
merci
appelé.
Beaucoup.
Et merci d'écouter les Odyssées de Laure Grand Besançon. Combien d'épisodes déjà? 80?
80, là on est à 80 épisodes, ouais.
Voilà, ça existe depuis 2019.
Juin 2019, les premières.
Et déjà 18 millions de téléchargements.
Je crois presque.
Waouh, waouh, waouh. Hein, ça c'est pour les plus grands. Léonard Billot, vous c'est Une histoire et au lit, c'est pour les plus petits, ça existe depuis 2018, c'est ça?
Depuis septembre 2018, exactement.
Ah, vous en avez fait plein, vous aussi.
On en a fait à peu près pareil, je crois, 80-85. On est en train de travailler sur les 5 prochaines qui sortent la semaine dernière, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est les 4. Ça, on va arriver à 85, je crois.
Voilà, et donc effectivement, il y en a le 22 décembre, c'est ça qu'ils vont...
Il y en a exactement le 22 décembre, 5 inédites qui arrivent, et on a 2 surprises aussi, qui sont des contes qui ne sont pas inédits, mais qu'on a retravaillé avec la maîtrise de Radio France et un compositeur invité qui a fait toute de la musique originale dessus, c'est magnifique. Et on va les sortir comme cadeau de Noël pour nos petits auditeurs.
Super. Alors vous allez nous en raconter tout à l'heure, Léonard Billot, comment vous procédez, parce que c'est pas tout à fait la même chose que pour Laure qui écrit tout et qui invente tout. Vous allez chercher des auteurs, c'est ça?
Je vais chercher des auteurs. Je leur demande si le projet les intéresse. Et puis après, je les accompagne dans l'écriture, dans l'enregistrement. Et puis ensuite, on crée autour de leurs histoires tout un univers sonore avec les réalisateurs de Radio France et notamment Lola Constantini avec qui j'ai co-créé Oli il y a 3 ans maintenant. Mais oui, à la base, je vais chercher des auteurs que j'aime, que je connais, qui ont envie de le faire, chez qui j'ai trouver de la fantaisie dans les textes pour adultes dont je me dis qu'elle peut marcher chez les enfants. Et effectivement, on en a 80, mais il y en a plein d'autres.
Des auteurs comme Pierre Ducrozet.
Tout commence dans un sous-bois dans lequel le vent se glisse. Adèle marche sur le chemin. Elle a 7 ans et elle est partie faire un tour dans cette forêt à côté de chez elle, dans les Pyrénées, avec ses parents et son frère. Adèle aperçoit un petit sentier qui plonge sur le côté, en plein cœur de la forêt. Les arbres sont plus hauts là-dedans, un grand silence règne. Elle avance. Hé, vous avez vu cet insecte là, sur la plante? Pas de réponse. Elle se retourne.
On est déjà dedans, hein, les métamorphoses d'Adèle. Oh.
De Pierre Ducrozet, qui est un très bon conteur et un auteur que j'adore. Et effectivement, on est dedans grâce... grâce à la mise en son, en fait, finalement, à la mise en l'habillage sonore et musical, qui permet immédiatement, je crois, de nous projeter dans l'histoire et de nous projeter dans un imaginaire et qui vient soutenir celui de l'auteur et celui que l'auteur essaie de mettre en place par des mots.
C'est vrai que la radio est un outil incroyable pour faire fructifier l'imagination. On va repartir au standard dans un instant, mais Marion Tillet, je voudrais avoir peut-être votre regard à vous de conteur. Vous qui racontez les histoires devant les gens, sur ces produits radio qui permettent à l'imagination de fonctionner de cette façon-là?
Mon regard sur ces produits radio qui permettent à l'imagination de fonctionner, je trouve ça, moi je me fais avoir pareil, des fois je peux en faire écouter à ma fille et puis c'est moi qui écoute finalement.
Ah bah finalement voilà, tout le monde est adepte.
Par exemple Sitting Bull, du coup moi ça m'arrive de décrocher et puis je demande à ma fille, mais attends, il est mort à la fin, comment ça s'est passé? Et moi je vais repasser des événements et je vais les réécouter quoi. Voilà. Donc mon regard, c'est que je trouve ça, je suis toujours assez étonné, même dans ce monde de la radio, fiction radio, de la précision et de l'intérêt qu'a l'audio sur l'imaginaire. C'est pour ça que j'aime le récit comme pratique théâtrale, c'est que ça fait appel aux images que les gens ont dans leur tête. Et la radio, c'est exactement ça. C'est fou comme avec des impulsions sonores extrêmement simples, on a le décorum en 3 secondes. Là, ça y est, sur l'histoire qu'on vient d'entendre, on y est, on a l'atmosphère. Il n'y a pas eu plus de 30 mots et on est déjà dans une atmosphère qui est très très chargée, quoi.
Absolument, on y est déjà. On va aller en Normandie retrouver Raphaël qui a appelé le standard de France Inter. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Madame Servageant, bonsoir les invités.
Bonsoir.
Raphaël à la voix, vous êtes un petit peu plus âgé que Laszlo tout à l'heure.
Oui, un petit peu plus. J'ai quand même un petit fond de 8 ans.
Ah voilà. Et voilà, donc.
J'appelle Arsène.
Voilà. À qui vous faites écouter éventuellement les Odyssées ou à qui vous racontez vos propres histoires?
Pour être honnête, je viens de découvrir les Odyssées, donc on va s'y mettre, parce que ça a l'air pas mal.
Je confirme.
Et à la base, en fait, non, en fait, on était super fans, on voulait féliciter la personne là, qui est avec vous, là, de chez Oli, pour le Jojo le Ninja, qui a été un grand carton à la maison. Et justement, en fait, c'est ma question, c'est que Thomas VDB est énorme dans l'interprétation du podcast, du coup, il est très rigolo. Ça me fait penser aussi à, en fait, avec mon fils, on est aussi très fans d'un autre podcast, Encore une histoire, et c'est Céline Furman qui fait la narration, Céline Kallmann, pardon. Et voilà, en fait, je voulais savoir comment nous, en tant que parents, on peut rivaliser avec des tels narrateurs, quoi. Comment on peut améliorer notre technique pour être aussi passionnant que ce que vous faites en podcast, quoi.
Merci beaucoup, Raphaël, pour cette question. Allez, Léonard Billot.
Mais c'est marrant parce qu'en fait, moi, quand les auteurs, finalement, à qui je demande d'écrire des histoires, et notamment Thomas me dit, je leur demande de faire une histoire et ils me disent, mais comment on écrit une histoire pour enfants? Et moi, je leur réponds tout simplement, en fait, comme s'il y avait ton enfant sur tes genoux, en fait. Imagine et raconte la même chose que ce que tu racontes à ton enfant ou à tes enfants ou au petit enfant que tu as envie d'être. Et c'est marrant, notamment pour Thomas VDB, c'est vraiment une histoire qu'il racontait à son enfant, à son fils. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'il était venu me voir en me disant « Attends, mais est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait une morale à la fin de mon histoire ? Parce que moi, ça parle de ninja, et genre de marche par le grillier, et de kidnapping, et ça part dans tous les sens, et il n'y a pas de morale. » Et je lui ai dit « Non, pas du tout, il n'y a aucune contrainte. Si tu racontes ça à ton enfant, moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, tu le racontes à tous les petits auditeurs de France Inter, donc viens raconter cette histoire. » Et en fait, c'est marrant parce que du coup, pour répondre à votre question, en fait, c'est plutôt à eux que je demande de raconter comme tous les parents, plutôt que de demander aux parents de raconter comme Thomas VDB.
Laure Grand-Besançon.
Oui, ça me faisait penser, Léonard, à ce que tu disais. En fait, on dit souvent qu'on racontait des histoires aux enfants, mais en fait, c'est raconter une bonne histoire, que ce soit aux enfants ou aux adultes. Finalement, une bonne histoire, elle est entendable. Alors bien sûr, il y a peut-être des choses un petit peu adaptées, etc. Mais en fait, on raconte une histoire, quoi, et ça doit plaire aux grands, aux petits, et c'est l'histoire en elle-même. Et après, je pense qu'on peut tout raconter aux enfants. Alors bien sûr, il y a des questions d'âge un petit peu, mais on peut aller très loin. On peut vraiment aborder les choses très très complexes. Et il faut juste peut-être pas. Enfin, moi, je sais que par exemple, du coup, je travaille avec une matière qui est la matière historique. Et cette matière historique, à chaque fois dont j'essaie de m'emparer, j'essaie pas de trop simplifier, mais simplement de d'éclairer la complexité, donc donner les clés pour comprendre ces éléments de complexité. Mais en réalité, les enfants vraiment comprennent. Tout, absolument tout, en fait.
Marion Tillet, sur cette question des différences d'âge, est-ce qu'effectivement, la trame de départ est la même ?
À partir d'un certain âge, oui, la trame de départ, elle est rapidement... Même au tout début, d'ailleurs, on est vraiment sur les structures narratives qui sont un peu toujours les mêmes, même pour les tout-petits, même pour les bébés, pratiquement. Mais il faut se souvenir que à la base, certainement, les histoires étaient... Je dis à la base parce que je n'y étais pas, étaient racontées dans des veillées. En fait, on s'occupait, on essayait d'expliquer pourquoi les étoiles brillent, pourquoi ceci, pourquoi machin, pourquoi on a peur, pourquoi on est dans la caverne, etc. Donc, on racontait des histoires à tout le monde à l'assemblée, et en fait on ne prenait pas en compte les enfants, on racontait l'histoire entre adultes, et les enfants étaient là et ils entendaient et ils écoutaient. Ça ne leur était pas destiné en premier, mais par contre les enfants de l'époque, donc je sais pas combien de temps comme les enfants de maintenant, dès qu'on raconte une histoire qui ne leur est pas concernée, ils sont tout à coup très très intéressés. Donc en fait, pour répondre à l'auditeur, comment avoir autant de talent? Alors déjà, il y a la question de l'écriture, c'est-à-dire que je ne sais pas combien de temps ça prend, mais c'est beaucoup de temps entre l'écriture, l'interprétation, le montage, etc.
Mais il disait, Raphaël, comment rivaliser avec les podcasts?
Rivaliser, il y a des livres, il y en a plein, et en fait, il y a plein de livres, et si l'auditeur, si le monsieur trouve une histoire qui l'intéresse, c'est évident que s'il la raconte à son enfant, ça l'intéressera extrêmement aussi.
Léonard.
Exactement, moi je pense qu'il y a quelque chose de l'authenticité, en fait, qui tourne autour de ça. Quand on raconte une histoire à son enfant, je pense que ça marche quand on est authentique. Et moi, ce que l'auditeur prenait l'exemple de Thomas de VDB, qui est quelqu'un qui est un professionnel de la voix et qui a l'habitude de raconter, pas forcément des histoires pour les enfants, mais en tout cas des histoires dans les oreilles des gens. En revanche, tous les autres, la majorité des gens qui font des histoires dans Oli et qui les racontent au micro sont pas des professionnels. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était dans le projet, c'était aussi comment ces auteurs qui travaillent normalement l'écrit viennent travailler à l'oral, avec ce que ça implique de trébuchement parfois dans leurs histoires. C'est de parfois ils sont pas très à l'aise, parfois ils sont pas habitués, parfois ils ont peur, parfois on sent le serrement de la gorge quand ils racontent.
Ah oui, pour lire et écrire pour être lu, c'est pas du tout pareil. Hein.
Et c'est ça que je trouve formidable, moi, dans Oli, c'est justement qu'il y a des gens qui sont très professionnels et qui maîtrisent très bien leur voix et qui savent raconter, à côté de gens qui savent pas forcément aussi bien maîtriser la voix, mais tout passe par, je vous dis, l'authenticité de l'intention, en fait.
Laure, vous vouliez dire un petit mot, puis après
oui,
on va aller au standard.
Et je pensais à un truc, à un souvenir d'enfant tout d'un coup, parce que voilà, on pense à raconter des histoires et parfois on se dit, ah mon Dieu, il faut raconter une histoire super complexe, avec plein de rebondissements, plein de choses, etc. Et moi, je sais que quand j'étais enfant, même mon père, tous les soirs, me racontait un truc, mais en fait, il me parlait de lui, il me racontait sa vie. Et j'étais mais fascinée. Je voulais savoir en fait ce qui lui était arrivé à lui, et juste parfois raconter sa vie à ses enfants, c'est merveilleux parce que ils sont d'un seul coup dans le secret d'une vie qu'ils n'ont pas connue, et c'est aussi tout aussi merveilleux.
Et voilà comment naissent les vocations. On repart au standard. Camille, 9 ans, est au bout du fil. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Alors Camille, c'est pour les Odyssées que tu appelles?
Oui.
Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Et alors, qui t'écoute bien et qui est prête à te répondre?
Oui.
Alors, quelles sont tes odyssées à toi, les préférées?
Je sais pas, il y en a plein.
Et tu les écoutes à quel moment, Camille?
Quand on part en voyage, le soir, et des fois, quand mon père a fini de les faire.
Ah bon? Il fait les odyssées? Ah. Il travaille sur les odyssées?
Ça va, Camille?
Oui.
Est-ce que tu t'es déjà imaginé Laure qui parle dans les Odyssées?
Non.
Ah, alors garde le mystère, garde le mystère.
On garde le mystère, mais il vaut mieux garder le mystère.
Il vaut mieux garder le mystère. Merci beaucoup Camille de nous avoir appelé. Laure, vous vouliez poser peut-être une question à Camille?
Juste savoir comment t'allais et si tu te prépares bien tes vacances de Noël là.
Oui.
C'est super. Merci beaucoup Camille d'avoir appelé France Inter. Merci mille fois. Je voudrais juste rebondir sur une question, toujours sur ce que disait Raphaël tout à l'heure. Il disait comment rivaliser. Une question qu'on n'a pas abordée. Est-ce qu'il faut passer par l'écrit pour raconter des histoires à l'oral? Je vous la pose à vous, Marien Tillet, vous qui êtes conteur professionnel.
Alors moi, je sais que je n'écris rien. En fait, je n'écris jamais rien. Mais j'enregistre. J'enregistre beaucoup. Passer par l'écrit, par exemple, quand on est parent, ou il y a le support du livre. Après, quand on a envie d'inventer une histoire, à mon avis, il vaut mieux se lancer et y aller, et le faire en direct. L'intérêt du direct, c'est que vous avez un enfant 10, 20, 30 devant vous, et que vous voyez bien leur réaction, c'est très très sensible et ça se voit tout de suite. Ok, là je vais continuer à tirer ce fil, il est intéressant. Ou là non, je vais plutôt aller vers autre chose. Donc le faire en direct, c'est l'assurance de rester connecté à ses auditeurs en fait.
Ça veut dire qu'il y a une part d'improvisation ? Quand vous commencez, vous n'avez pas forcément toute l'histoire ?
Alors moi c'est différent, là je parlais vraiment quand on est parent, mais moi quand je raconte pour le jeune public, il y a beaucoup d'improvisation, parce que déjà je cherche à faire le groupe, c'est-à-dire que vraiment je les rencontre, bonjour, comment ça va, je m'appelle Marien, je vais vous raconter l'histoire, ça va bien, ah, vous êtes tous bien assis, bon alors, et hop, je commence à raconter une histoire, et l'histoire je la connais, mais je ne la connais pas par cœur, des fois je pourrais avoir l'impression que je la connais par cœur, mais ça n'est pas le cas, et selon les réactions des enfants, tout d'un coup il va y avoir une teinte, une forêt va être tout d'un coup beaucoup plus sombre, beaucoup plus touffu, beaucoup plus dense, beaucoup plus clairsemé, beaucoup plus... Voilà, tout peut évoluer de la même façon que quand je dis il y a un arbre et que, je sais pas moi, Léonard imagine un pommier et Laure imagine un sapin. Si je dis en hiver, tout d'un coup dans la tête de Léonard, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de pommes. Et en fait, ça n'arrête pas d'agir comme ça. Et moi, je raconte en essayant d'être connecté à l'auditoire, en me disant, tiens, ok, là, ça a évolué. L'image que j'ai envoyée, elle ne m'appartient plus, elle a évolué, je vais essayer de faire avec cette image.
Vous avez fait, je crois, Damien, du théâtre, comme Laure, Grand Besançon, qui vient du théâtre. C'est, Laure, une école essentielle pour raconter des histoires ?
Bah en fait je pense que c'est venu forcément c'est réapparu quand je commençais à raconter dans le micro la façon de mes années de théâtre elles ont ressurgi dans bah naturellement en fait et je pense que après c'est vrai que nous on a l'avantage c'est le micro et le micro vraiment ça rend la voix merveilleuse donc qu'on soit très aguerri ou pas il y a toujours une intimité et une émotion qui transparaît dans le micro toujours mais après je pense que ça m'a aidé oui à travailler parfois dans des aigus, dans des graves, à en faire des caisses sur des effets un peu, à travailler dans les rires, enfin, à travailler un peu l'amplitude, quoi, qu'il peut y avoir.
Le théâtre est effectivement important. On repart au Standard. Cette fois, c'est Hervé qui est au Standard. Bonsoir, Hervé.
Oui, bonsoir.
Alors, vous racontez des histoires ?
Oh, moi j'ai raconté plein d'histoires à mes enfants quand ils étaient petits. Mais j'ai raconté bien sûr des petits livres, on a ouvert des livres beaucoup et on a raconté beaucoup des histoires écrites déjà dans les livres. Mais j'ai raconté mes propres histoires, ça veut dire que je les ai pas inventées, c'est l'histoire que j'ai vécue quand j'étais petit. J'ai toujours dit que c'était mes années bonheur à la campagne, chez grand-mère, oncle et tante, courir les bois et les champs et avec un copain. C'est les années 60, là j'avais 7-8 ans. Hein. Et donc c'était des années merveilleuses. J'ai raconté donc des histoires de pêche, des histoires de chasse avec un oncle, des histoires de chasse au muguet, trouver les muguets, on s'inventait des choses un petit peu curieuses, des monstres qui sortaient des bois, on se faisait peur. Je racontais tout ça à mes enfants, et si bien qu'un jour, mes enfants m'ont dit « Mais papa, pourquoi tu n'écris pas ?» Alors j'ai écrit ces histoires sous forme de petites nouvelles, et qui font deux ou trois pages à chaque, et c'est des histoires de coqs, de poules, de nourrir, de courir, aller chercher du fromage, aller chercher, parce qu'à ce moment-là, on allait chercher le fromage dans les fermes, on allait chercher tout ça, le lait, et donc c'est merveilleux tout ça, et les enfants étaient très très attentifs, posaient des questions, et ça fait que maintenant j'écris, pour mes enfants, et puis mes petits-enfants maintenant, parce que je suis grand-père, donc plus tard ils pourront lire ces histoires. Et c'est un tas de souvenirs qui reviennent en même temps quand on écrit et quand on... Les souvenirs reviennent. Le cerveau a cette faculté de savoir que la mémoire revient, on retrouve des visages, des voix, des bruits de la nature, et ça c'est merveilleux à raconter, quoi. Voilà, et là les enfants étaient très très attentifs et s'endormaient comme des petits sonneurs.
Merci voilà. Mille fois pour ce très beau témoignage, Hervé. Ils ont de la chance, vos petits-enfants, hein, continuent à leur raconter des histoires. Marien Thillier, vous souhaitiez réagir
oui,
à ce que disait Hervé.
Ce qui est intéressant dans ce que dit Hervé, c'est que en fait, les histoires sont partout et c'est juste une question d'attention. C'est-à-dire que même moi, en montant dans les locaux de France Inter, en prenant l'ascenseur sur lequel il y a une poignée de porte et des espèces de moulures, mais c'est une photo. Mais quand même, la dernière fois que je suis venu, il n'y avait pas de poignée de porte.
Donc ça vous inspire.
Et que la porte s'ouvre et que la personne me laisse passer en premier et que je me dis, tiens, je suis passé en premier. D'habitude, il y avait du monde dans l'ascenseur. Et tout d'un coup, si j'ai une attention à ça, l'histoire, elle est partout, elle se crée partout. Et ce monsieur, quand il courait dans les bois, il avait cette attention certainement naturelle qui fait qu'elle peut être reconvoquée des années d'après. Et pour les parents qui ont envie de raconter l'histoire, d'en inventer, En fait, tout, il suffit de regarder dans la chambre de leurs enfants et c'est parti, en fait. Tout est là, il suffit d'y mettre une structure, d'y mettre une attention, une émotion, laquelle? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est du doute? Est-ce que c'est... voilà, mais en tout cas, les histoires sont partout, elles attendent juste d'être réveillées.
Léonard Biot, Hervé nous disait, du coup, il s'est mis à écrire. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors vous, quand vous allez chercher des auteurs qui écrivent a priori pour les adultes, qu'est-ce qu'ils vous disent de cette expérience d'écrire, d'écrire pour les enfants et ensuite de raconter eux-mêmes ?
Alors je vais vous répondre, mais je vais juste faire une toute petite parenthèse parce que en fait c'est assez marrant l'histoire d'Hervé parce qu'en fait moi c'est vraiment les histoires que me racontait mon père quand j'étais petit qui m'ont
décidément
qui m'ont exactement et a priori c'est la même chose pour Laure donc je me dis qu'il y a
j'espère
quelque chose
ça se trouve on avait le même père
je ne crois pas mais écoute on va vérifier on va l'appeler juste après en sortant mais donc voilà et c'est moi je ne me suis pas mis à écrire à cause des histoires de mon père mais j'ai fait un podcast et j'ai invité d'autres à écrire ensuite est-ce que les auteurs ont peur d'écrire moi ce que je constate avec les auteurs avec qui j'ai travaillé, c'est qu'en fait, justement, le fait que ça ne soit pas dans un premier temps à l'écrit, les décomplexe un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, les auteurs sont forcément des gens qui sacralisent l'écriture. Et quand je leur demande de faire un podcast et de raconter une histoire, et vraiment en leur disant, raconte-le comme tu le raconterais à ton enfant ou à n'importe quel enfant, justement ce basculement d'abord vers l'audio, vers l'oral, permet de les décomplexer un petit peu. Après, il y en a qui restent un petit peu, enfin qui ne savent pas parce qu'il y a des codes, il y a des choses à respecter, enfin en tout cas croient-ils, et j'essaie de les accompagner justement pour qu'ils se décomplexent totalement et que en fait ils laissent la fantaisie et même la folie s'emparer totalement de leur écriture. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez marrant dans l'écriture pour enfants. J'ai des auteurs qui peuvent écrire des choses très sérieuses, qui se laissent complètement aller l'imaginaire, à l'imagination, à la fantaisie. Et ça donne des choses assez radicalement différentes de ce qu'ils ont l'habitude d'écrire pour les enfants, pour les adultes, pardon.
Laure.
Bah, c'est vrai que du coup, il y a ce rapport à l'écrit. Moi, par exemple, je pense que j'aurais la trouille de faire ce que vous faites, Marien, de me jeter comme ça dans le vide et d'y aller.
Bon, alors là, on en doute tout petit peu.
Franchement, et donc je fais tout pour me protéger. Donc je suis là, j'ai ma petite feuille, je travaille avant, j'écris.
Tout est écrit, Laure.
Tout est écrit. Après, quand je passe en studio, du coup, je travaille mon texte. Ça prend à peu près une semaine. Je lis. Je me prépare pour l'enregistrement. Quand je lis, je pense à d'autres blagues. J'essaie toujours de trouver des blagues un peu de dernière minute pour ajouter un peu de frais. Et après, en studio, je teste des blagues comme ça avec les techniciens et ma réalisatrice pour voir si ça marche. Mais du coup, je passe beaucoup de temps à écrire. Mais pour que justement le moment de l'oralité, parce que j'adore le studio et que c'est vraiment tellement génial de pouvoir parler dans un micro et de raconter des choses dans un micro, je bétonne vraiment bien avant pour que au moment de l'enregistrement, il y ait tout le plaisir de waouh, on y va quoi, ça les happe et puis on peut
et je crois qu'il y a encore une question qui vient pour vous Laure au standard. Bonsoir Lisa.
Bonjour.
Salut Lisa.
C'est une question pour Laure Grand Besançon.
Oui.
Alors vas-y Lisa.
Comment vous faites pour faire des voix comme ça, les petits rires et tout, j'aime beaucoup.
Ah bah alors tu vois, ça c'est des petites choses que tout le monde, en fait la voix c'est hyper souvent quand on parle on n'utilise qu'une seule de nos facultés vocales quoi, une tonalité, mais en réalité la voix elle est très puissante, elle est très très riche et en fait tout le monde a une grande amplitude et donc même toi par exemple tu peux t'entraîner et comme ça apprendre parfois prendre des voix un peu dans les graves comme ça et après tu peux monter très 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 dans les aigus et voilà et en fait c'est une sorte d'élastique la voix en fait peut-être Marien, vous me corrigerez, mais
oui, c'est un instrument. La voix, c'est un instrument.
Et du coup, si tu travailles un peu comme ça, si tu t'amuses comme ça, petit à petit, pendant les vacances de Noël, par exemple, comme ça, parler une petite heure avec une voix très aiguë, comme ça, et après, tu peux t'amuser à parler avec une voix très très grave, comme ça. Petit à petit, tu vas découvrir des amplitudes, des potentialités que tu connaissais pas, et tu vas découvrir ta voix, et tu verras, en fait, paf, c'est comme un toboggan, en fait.
Voilà, Lisa, tu vas pouvoir raconter des histoires toi aussi et jouer et jouer avec ta voix. Mais oui, n'hésite pas. Et puis tu t'enregistres. C'est tellement facile maintenant. On a tout ce qu'il faut pour s'enregistrer. Marie est au bout du fil également. Bonsoir, Marie.
Bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne d'Inter. On vous écoute.
Merci. Alors d'abord, je voudrais vous remercier tous parce que c'est un vrai plaisir de vous écouter tous les jours. Et sinon, donc moi, je suis une mamie et j'ai souvent l'occasion de garder mon petit-fils qui a 2 ans et demi. Alors je raconte beaucoup d'histoires, j'ai toujours raconté beaucoup d'histoires, donc merci aussi Petit Ours Brun quand même. Mais j'ai découvert Oli, et là donc on se met tous les deux sur le canapé, voire parfois tous les trois avec mon mari, parce qu'en fait, nous on s'éclate autant que mon petit-fils, vous avez été très fort. En fait on choisit, on merci voit Marie. Oh Guillaume Meurice. François Morel. Alors là, c'est un plaisir. J'ai même découvert Olivier Norek. Alors en fait, j'ai eu moins de plaisir avec Olivier Norek parce que je connaissais pas sa voix. Alors que Daniel Morin, avec sa bouboule, la poule trop cool, enfin là, ensuite. Et en fait, on prend autant de plaisir, nous les adultes, à écouter la voix de nos chroniqueurs, que mon petit-fils qui se régale avec les histoires. Donc, on n'apprécie pas toujours les mêmes histoires, parce que moi, j'ai plutôt mes chroniqueurs préférés, et lui, ses histoires préférées, mais on se retrouve quand même tous sur le canapé. Et c'est là aussi l'importance de la voix. Parce que moi, vraiment, c'est la voix. Je vous dis, Olivier Norek, qui est mon auteur de polar préféré, bah, sa voix, ça m'a moins transportée que celle de François Morel. Voilà.
Merci beaucoup, Marie. Bah, vous voyez, Léonard Billot, c'est pas pour les 5-7 ans, c'est pour tout le monde.
C'est
ce que vous
tout
faites, c'est extraordinaire.
Et merci beaucoup. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est ce qu'a dit Marie sur que ça lui a fait découvrir des choses. Et en fait, c'est comme ça que j'espérais que marcherait le podcast, en fait. Ça veut dire que c'était un podcast qui permettrait à des enfants de découvrir, en fait, des auteurs que leurs parents aimeraient. Mais aussi, et c'est pour ça que et c'est pour ça aussi qu'on on ouvre un petit peu, pas qu'à des auteurs, mais à des gens qui écrivent, finalement, et qui manient les mots, c'est qu'en écoutant François Morel, qu'on connaît parce qu'on écoute France Inter, on va découvrir d'un coup un auteur qu'on connaissait pas. Et pour les adultes aussi. Et c'est ça que je trouve, c'est cette notion de transmission et de découverte que je trouve assez belle et que j'avais quand même en tête en créant Oli.
Bravo, en tout cas vous avez réussi. Laure ?
Oui, par rapport à ce que disait Marie, c'est vrai que en fait, ce qu'elle souligne, c'est qu'en fait, on est tous sensibles aux histoires. On a tous envie qu'on nous raconte une bonne histoire, petit, grand, et ça rejoint un peu ce qu'on disait au début. En fait, les histoires, c'est vraiment pour tout le monde, en fait.
C'est universel.
C'est universel.
Et pour pousser le truc, on est tous sensibles aux voix, en fait.
Oui, aux voix aussi,
et aux
ouais.
Physiques, aux physicalités et tout ça. Et ce qui se passe, en fait, quand vous racontez des histoires à vos enfants, c'est que ils sentent bien qu'il y a une posture un petit peu différente, que ça y est, papa ou maman se mettent en action dans l'histoire, et les enfants, ils y sont hyper sensibles. Et ils s'y sont donc très intéressés parce qu'ils comprennent, c'est une histoire de rituel, on sent bien, ah, la voix change un petit peu, c'est pas exactement comme d'habitude, et ça devient un rituel, on est sensible aux histoires, mais on est sensible vraiment aux voix, parce que cette voix, elle a de l'attention envers une histoire, donc envers celui à qui elle raconte.
Marie Attillé, est-ce qu'on peut parler de la recette d'une bonne histoire? Parce que bon, on a beaucoup parlé de ceux qui racontent leur propre histoire, mais pour ceux qui auraient pas envie de le faire et qui voudraient raconter autre chose, est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a, par exemple, l'idée d'avoir quelques personnages, mais pas trop, une certaine longueur ou pas? Est-ce qu'il y a une recette pour vous, le conteur?
Moi, je dirais qu'il y a, il y a évidemment pas de recette et il y en a mille en même temps et que chacun trouve sa recette en fonction de comment ça fonctionne. Mais il y a quand même une chose, je me dis toujours, même quand je donne des stages à des gens qui apprennent à raconter l'histoire, je leur dis, si vous vous arrêtez et que les gens en face de vous n'ont pas envie de dire « et après ?», c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas. C'est que c'est sympathique, que c'est poli, qu'il y a une convention d'écoute. Mais si les gens, si vous arrêtez et que vous barrez de la salle et que les gens vous rattrapent en disant non, tu nous racontes la suite, c'est qu'il y a un petit truc qui manque, quoi.
Effectivement, ça c'est un critère. Alexandra a appelé le 01 45 24 7000. Bonsoir Alexandra.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Je raconte des contes de Grimm régulièrement à mon petit garçon qui a 6 ans. Par exemple, il était une fois deux enfants qui s'appelaient Hansel et Gretel. Leurs parents étaient très pauvres, ils ne pouvaient plus les nourrir. Demain, nous les abandonnerons dans la forêt.
C'est horrible, hein ?
Quel enfer !
Et à ce moment-là, mon fils part en pleurs.
Ben oui.
Et donc, je ne veux pas continuer l'histoire parce que je sais que la fin est plus douce. Mais lui, il est vraiment en train de pleurer. Donc à ce moment-là, je fais autre chose. On invente des fausses tortures indiennes avec des petites flèches qui font des chatouilles. Mais je peux pas raconter l'histoire en entier. Je ne peux pas arriver jusqu'à la fin.
Eh ben écoutez, vous avez certainement raison, Alexandra, parce que c'est, il y a pas de raison qu'on soit là pour se faire du mal. Et c'est vrai que les frères Grimm, bon, ils nous ont pas laissé que des cadeaux. Damien,
après c'est des
histoires, pardon.
C'est l'histoire qu'on peut raconter. Mais après, c'est pas le moment. Il y a vraiment une question dans les histoires qui font peur et qui ont des thèmes un peu traumatiques comme l'abandon et tout ça qui est importante. C'est la façon, c'est vraiment celui ou celle qui raconte. Si on sent que c'est dramatique, alors l'enfant il va le sentir que c'est dramatique. Et nous, on met souvent beaucoup de psychologie quand on lit lit des histoires, on se dit « Oh là là, ils les abandonnent » et tout ça. On est en train d'y penser, et donc quand on le raconte, on est en train de le faire, en fait. Si, par contre, moi souvent je raconte une histoire, oui, bon bah c'est souvent comme des histoires, bon bah c'est une petite fille, elle a perdu sa maman, et son papa se remarie, et pouf, ça passe comme une lettre à la poste, et il n'y a pas de souci. Après, des fois, c'est pas le moment, et quand on a un auditoire, on peut aussi dire, quand on sent qu'il y a de la tension, parce que moi j'aime bien mettre de la peur, dès que je sens qu'on passe une sorte de seuil, je dis « ça va, ne vous inquiétez pas, là c'est dur, mais ça va super bien se terminer ». On peut aussi sortir de l'histoire et dire « c'est pas très grave, en fait, et ça va bien se passer ».
Laure, vous faites attention à ça aussi?
Oui, je fais attention bien sûr à ça. Après, moi, on n'hésite pas aussi de temps en temps à faire des choses un petit peu effrayantes et annoncées comme telles, et en me disant que les parents, les enfants aussi. Enfin, je pense que c'est très juste ce que vous disiez sur le fait qu'il y a des moments en fait, et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, et il faut passer à autre chose et basculer sur une autre histoire et peut-être revenir après. Parfois, il y a des auditeurs qui nous écrivent, des parents qui disent ah ben voilà, il avait commencé par écouter ça, ça lui a fait peur. Il a arrêté, et puis trois mois après, il a réécouté, et maintenant il adore. Donc ça avance, ça évolue, et il faut voilà, prendre le bon moment. Si ce n'est pas le moment, il faut arrêter, et puis revenir plus tard.
Voilà, il faut évaluer Léonard Billot sur cet aspect-là.
Ouais, mais en fait, ce que je me dis en écoutant ce que je viens d'entendre, c'est que je pense que dans les contes de Grimm, ou dans un certain nombre de contes traditionnels, en fait, la vocation n'était pas la même. C'est-à-dire que je pense que c'était des contes à travers lesquels on essayait d'éduquer les enfants, ou de leur faire passer les grands messages, les grandes menaces auxquelles ils allaient pouvoir être confrontés avant, parce que c'était quasiment la seule manière de les informer, en fait. Aujourd'hui, je pense que les histoires pour enfants, elles sont pensées, en tout cas, les livres que je lis à mon fils ou celles que j'enregistre avec des auteurs, elles sont pensées comme des espèces de respirations poétiques et non pas comme des histoires éducationnelles. Et je pense qu'au contraire, elles servent à s'échapper d'une réalité qui peut être un petit peu violente ou un petit peu rugueuse, et qu'elles sont plus tendues vers quelque chose de plus doux.
Laure, rapidement, parce qu'on a pratiquement
très rapidement. Terminé. Après aussi, tous ces contes, ils font vraiment appel. Enfin, c'est des peurs symboliques en fait, et qui permet aussi aux enfants de les digérer aussi.
Bien sûr. Merci beaucoup, Laure. Les dernières Odyssées donc sont déjà sur le site. Pour Oli, encore un petit peu de patience, ce sera le 22 décembre avec deux podcasts bonus.
Exactement, pour Noël.
Voilà, mis en musique par la maîtrise de Radio France, Marien Tillet. Pour vous, peut-être une date de spectacle ou...
Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite fille qui est en train d'écouter. Elle a 7 ans aujourd'hui.
Comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Léna.
Joyeux anniversaire, Léna.
Il y a des dates qui arrivent en janvier. On pourra retrouver sur le site lecridelarmoire.fr. Il y a des informations. Voilà.
Et ben merci mille fois d'être venu ce soir. Bon anniversaire à toi. Merci Léonard Billot. Merci mille fois, Laure Grand-Besançon. C'est terminé. Oh là là, on me fait signe. C'est fini.